Accès libre.
Accès libre édition du 24 octobre avec Karine Villeneuve de l'Association des personnes de petite taille du Québec. Karine, c'est positif notre affaire aujourd'hui?
Oui,
ben... Je regarde ça, là. Et si on regarde le verre à moitié plein et même on sera même pas obligé de se forcer, 4 nouvelles positives.
C'est bien.
Le Rapplique, qui donne une mention d'honneur à une boutique Nespresso. On va causer avec Linda Gauthier. C'est plaisant, je trouve que c'est une belle initiative. Emma Québec, qui nous explique, qui nous cause de son plan d'action pour accueillir le bon sang des personnes à mobilité réduite. On va causer... En fait, la bonne nouvelle, ce n'est pas que les hôtels de Montréal ne respectent pas la loi dans le pourcentage des chambres accessibles, mais bien que la facture s'y est intéressée. Et normalement, lorsque les caméras grand public s'intéressent à quelque chose, c'est récupéré après. Et en tout cas, nous, on va le faire aujourd'hui et dans les prochaines semaines. Et vous me parliez d'un médicament oui. qui vraiment pourrait avantager le quotidien de certaines personnes.
Oui, mais en fait, ça s'appelle, il s'appelle Vimizim. C'est le seul médicament, traitement homologué par Santé Canada pour les personnes qui vivent avec la maladie de Morquio. La maladie de Morquio, c'est une maladie bien sûr rare et c'est une maladie aussi qui est reliée au nanisme. Beaucoup de personnes chez nous de petite taille vont avoir ce syndrome-là. En plus, qu'est-ce qui est particulier pour cette condition-là, c'est qu'en plus de la petite taille, il y a d'autres facteurs, une santé un peu plus fragile ou une condition un peu plus dégénérative. Alors, ce médicament-là va améliorer grandement la qualité de vie des personnes qui suivent le traitement. J'en ai d'ailleurs moi-même parlé avec certaines jeunes filles là, qui ont participé là, à la campagne « Ma vie n'attend pas ». Et depuis qu'elles suivent ce traitement-là, depuis, je pense, 2 ans à peu près, là, ça l'a changé du tout pour tout, parce qu'on parle de personnes où on devait utiliser un fauteuil roulant, avait cessé de marcher, au niveau de la structure osseuse, il y a des déformations, il y a comme comment je pourrais dire ça, je sais pas, une dégénération qui peut se faire. Alors ça vient stopper. Et ça fait que ça donne une très grande qualité de vie et les gens peuvent avoir une vie encore plus normale.
Et on va profiter du fait que Gail Ouellet est au bout du fil, elle qui est du regroupement québécois des maladies orphelines. Bonjour Gail.
Bonjour.
Ce médicament, est-ce qu'il est, est-ce qu'on a suffisamment fait de tests pour savoir qu'à long terme, il n'y aurait pas d'effets secondaires? Parce que ce que Karine décrit, c'est non seulement une amélioration, mais une amélioration, somme toute, assez rapide de la condition de la personne.
Oui, bien, c'est un médicament qui... premièrement, c'est pas le premier médicament du genre, là. C'est ce qu'on appelle un remplacement enzymatique. C'est la maladie de Morquio, c'est une déficience d'une enzyme. Et puis, on a fabriqué là, cette enzyme en laboratoire dans du vivant. C'est des techniques là, de biotechnologie là, génomique. Puis, mais c'est à peu près le 6e, 7e, là, si je me rappelle bien, de ce type de médicament qui a été, qui est déjà utilisé depuis des années pour des maladies semblables, la même catégorie de maladies. On fait des infusions de cette. C'est pas un comprimé oral, des infusions. Puis, donc, on est assez habitué, là, avec. Le type de médicament, le processus, puis évidemment, pour la maladie de Morquio, le Vimizim a été testé dans les règles de l'art avec les essais cliniques phase 1 jusqu'à 3 et plus. Donc, la phase 2, évidemment, c'est là qu'on teste pour la sécurité, finalement,
ouais, ouais.
Pour l'innocuité, pour voir s'il n'y aurait pas des effets indésirables sévères, graves. Et puis, ça a passé la phase 2. Puis là, après ça, on a fait l'étude là, sur un total de 176 personnes à travers le monde, dont certains au Québec. Puis, pour vraiment tester son efficacité à ce moment-là versus un placebo.
Je suis curieux. Et, est-ce que l'une de vous deux, savez, bon, c'est une infusion. Qu'est-ce que ça goûte?
Une infusion, ben c'est intraveineuse.
Ah, OK. Moi, je voyais ça comme une tisane avant de se coucher.
Oui,
là.
Oui, hein, comme une tisane. Non, excusez, hein, encore les termes médicaux, mais c'est par voie intraveineuse. Donc, les gens, en général, là, ils vont à l'hôpital pour ce traitement-là. Mm-hmm. Quoique, ça peut se faire à la maison, là, dans certains cas. Mais... En fait, pour terminer donc sur les effets indésirables, il y en a eu comme il y en a eu pour d'autres maladies où il y a de ce traitement semblable qui peuvent être des réactions allergiques, tout ça, mais en général, c'est bien contrôlé, traité. Fait que, bon, puis à long terme, ben tous ces médicaments-là semblables, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on introduit une enzyme que le corps a déjà. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait, comme pour certains médicaments qui sont des produits chimiques synthétiques, là, qu'il y ait quelque chose qui arrive plus tard. Là,
Est-ce que finalement, c'est comme si on redémarrait l'usine de fabrication de cette enzyme-là qui était défectueuse?
Bien, ça serait plutôt la thérapie génique. D'ailleurs, il y en a des travaux là-dessus. On n'est pas encore rendu là, mais la thérapie génique, ce serait ça. Ce serait de remplacer le gène qui est défectueux par un bon gène. Puis ça, à ce moment-là, l'usine dans la cellule va aller fabriquer l'enzyme.
Ouais.
Tandis que dans ce cas-ci, c'est vraiment l'enzyme qui est fabriquée dans des usines vivantes, presque à grande échelle, et on extrait l'enzyme, puis par infusion, on le met dans le corps de la personne qui est atteinte.
Karine Villeneuve, je sais que vous avez parlé à certaines personnes qui utilisent ce médicament-là. Bon, là où le bas blesse, c'est qu'il est très coûteux. Je présume que ces gens à qui vous avez causé ne voudraient pas s'en passer. Ont-ils des solutions? Craignent-ils d'avoir à devoir arrêter? Qu'est-ce qu'on dit sur le souci du coût?
Bien, c'est sûr que, entre autres, j'ai parlé à Laurie, 19 ans, qui est aussi membre chez nous. C'est sûr qu'elle a changé sa vie. Ça lui permet tellement de reprendre ses activités, de travailler. C'est sûr que le médicament coûte beaucoup d'argent, mais en même temps, si ça permet à des individus, des Québécois, à reprendre le marché du travail, à investir et tout ça, j'imagine que... Pour interpeller nos gouvernements pour montrer cet élément-là, pour que ça peut être rentable. Parce que c'est. Ben, je ne sais pas, Gaël, c'est combien à peu près les chiffres, là, combien ça coûte là, par personne, par année?
Mm-hmm. Ben oui, c'est parmi les médicaments coûteux pour les maladies rares, malheureusement. Puis on parle ici là, d'un 200 000 à 300 000 par personne par année. Puis en principe, c'est un médicament qu'on prend à vie. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est pour peu de personnes.
Mm-hmm.
Puis on a un budget de médicaments au Québec de 4 milliards de dollars. Donc, il y a
par année.
Oui.
D'accord.
Et pour nous, quand on fait nos calculs, puis même en incluant d'autres maladies rares, c'est très peu, là. C'est une goutte là, dans la mer, comme disait un médecin d'ailleurs. Mais c'est ce qu'on appelle les médicaments orphelins. C'est des médicaments qui sont faits expressément pour des maladies rares. Déjà, il y en a très peu. Il y a 7000 maladies rares, mais il y a 250 produits seulement pour des traitements.
Mais voilà où loge le problème. C'est que, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de l'administrer à beaucoup de patients. La mauvaise nouvelle, c'est que s'il y en avait plus, il coûterait moins cher parce qu'on pourrait le faire à plus grande échelle.
Bien, c'est ça le problème des maladies rares. Et c'est pour ça qu'il y a 30 ans, personne ne s'intéressait à développer un médicament pour les maladies rares.
Vous n'êtes pas dans bonne association, Gail.
c'est pour ça qu'on s'appelle Orphelin, puis en espérant qu'on ne le demeure pas toujours.
Ouais.
Mais et il y a 30 ans, aux États-Unis, on fait, poussé par les associations de patients, ce qu'on appelle le Orphan Drug Act, donc un règlement pour les médicaments orphelins, puis il donne des incitatifs financiers aux compagnies pour faire ces médicaments-là. Alors ça, ça a marché, c'est pour ça qu'aujourd'hui, au lieu de 10 médicaments, on en a 250, mais le marché reste petit quand même. Il faut qu'ils développent, puis ils ont des coûts. Puis là, pour que eux, ce soit rentable, ben, les prix sont élevés. Puis en plus, c'est souvent des biologiques qu'on appelle, des médicaments biologiques. Donc, c'est déjà, ça, c'est de l'innovation technologique. Là, donc, ça aussi, ça a des coûts. Fait que c'est ça la situation. Fait que c'est comme un cercle vicieux. Là. Si les gouvernements ne veulent jamais payer ça, ben là, on va arrêter d'en faire. Ça veut dire que les personnes avec les maladies rares, contrairement à toutes les autres personnes malades dans la société, n'auront jamais leurs médicaments, jamais leurs traitements. Fait qu'en tout cas, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on trouve une façon là, d'intégrer ça, parce qu'on trouve que c'est une situation injuste là, pour les personnes qui ont des maladies rares.
C'est sûr. Mais dans ce cas-ci, vraiment, bon, je calcule, là, Laurie, disons, ça va être plus simple, si je commence à 20 ans, elle vit jusqu'à, disons, 80, ça fait 60 ans, à 2 à 300 000 par année. C'est quoi? C'est-tu 180 millions ou 1,8 milliard? Là, il me manque un zéro quelque part.
Ouais.
Bon, quand on dit la vie n'a pas de prix, dans ce cas-là, ce serait vrai, là, ce serait l'argument. Là. Parce qu'il y a combien de personnes qui pourraient se voir administrer ce médicament?
Ben là, c'est juste des estimés qu'on a. C'est comme ça pour les maladies rares. On a de la misère à toujours savoir combien il y a de personnes, où elles sont, tout ça. Mais on estime là, peut-être 40 à 50 personnes. Là-dessus, on sait qu'il y a des adultes là, qui sont... On a fait même un petit sondage, là, puis il y a des adultes qui disent soit déjà non ou soit qu'ils ne sont pas du tout certains qu'ils voudraient avoir le médicament. Ça, c'est pas toutes les personnes là, qui le veulent. Donc, bon, mais mettons qu'il y en a 20, 30. Ouais.
Mais ça, c'est pour le syndrome de Morquio, où je présume que ce médicament-là est aussi, disons, efficace dans d'autres situations, parce que vous sembliez dire en début d'entrevue que oui, là, ça pourrait en aider d'autres qui vivent d'autres réalités.
C'est-à-dire qu'il y a des médicaments semblables, une autre enzyme, là, qui sont pour d'autres maladies. Puis, au Québec, il y a d'autres groupes comme ça qui ont réussi à avoir leurs médicaments. Il y a un centre de traitement de la maladie de Gaucher, il y a un centre de traitement de la maladie de Fabry, qui sont des maladies dans la même catégorie, que c'est le même type de traitement. Puis eux, ils ont réussi, puis même ils ont réussi sans que ça passe par le processus normal, par lequel là, le Vimizim est en train de passer. Puis, il l'offre. Alors, ça aussi, on trouve que c'est un problème parce que comment on peut décider dans une société qu'un certain groupe a leurs médicaments?
Ben, le problème, c'est pas qu'ils l'ont, c'est que d'autres ne l'ont pas. C'est plutôt
exactement.
Ça.
Ouais, ouais, ouais. Exactement.
Gail, je suis obligé de laisser cela, malheureusement, pour vous et pour nous dans ce sujet-là. Bon, il y a d'autres sujets à couvrir, mais vous avez été assez gentille pour accepter de quitter votre 819 tous les vendredis de novembre et venir vous asseoir à la place de Karine.
Merci pour l'invitation et merci pour votre intérêt à ce sujet.
J'avais un intérêt et vous l'avez décuplé dans les 12 dernières minutes. Merci beaucoup, Gail Ouellet.
Merci. Au revoir à Luc et Karine.
Gail, qui est du Regroupement québécois des maladies orphelines. Petite pause musicale bien brève, le temps de faire entrer Claire Frémont, qui est journaliste à l'émission La Facture, et Sophie Lanteau de la Société Logique. dit à Claire, alors qu'elle entrait dans le studio, que j'ai bien aimé le reportage, même si on n'a pas aimé ce que l'on a vu. Parfois, il faut dire les choses comme elles sont. Claire Frémont, journaliste à Radio-Canada et est surtout attachée à l'émission La Facture ces temps-ci. Merci beaucoup d'être là.
Ben, je vous en prie, c'est un grand plaisir pour moi.
Sophie Langteau, comment
allez-vous? Bonjour, très bien.
Vous, d'un œil intéressé, qui saviez tout ça, vous avez reçu ce reportage de quelle façon?
Ah, très bien. Je trouve que ça va sensibiliser les gens à plus se manifester quand tu vois des situations comme ça qui sont aberrantes. Et moi, c'était de voir à la quantité d'hôtels que vous avez visités puis les statistiques qui défilaient du nombre de chambres accessibles sur l'ensemble des chambres de l'hôtel. C'est vraiment significatif.
Oui, oui. Ce qu'on a constaté, donc, c'est que même s'il y a une loi qui oblige les hôtels, les complexes hôteliers à offrir 10 % de leurs chambres accessibles, aucun hôtel dans la grande région ici ne répond à la réglementation, et ce, même si, entre autres, un est récemment construit.
Tout à fait. Écoutez, nous-mêmes, on a été extrêmement étonnés des résultats, troublés par ce qu'on a découvert, parce qu'au départ, on nous avait dit, écoutez, il y a peut-être un sujet à faire là, et ce qu'on fait, nous, quand on entend des choses comme ça, quand des sources nous informent, on se dit, bien, on va vérifier. Donc, on a commencé à vérifier au tout début par téléphone. Et là, c'était absolument, je me disais, mais ça se peut pas. C'est comme si aucun hôtel n'a le 10 % requis par la loi. Là, c'est une obligation légale. Et là, on est parti avec Monique Trudel, qui nous a bien aidé, donc une collaboratrice en fauteuil roulant. On est parti en caméra cachée. Et c'est la même chose qu'on a constaté. Donc, on a pris un peu plus de 60 hôtels dans la région de Montréal, des hôtels qui avaient tous été construits, rénovés. Et je vais vous dire, après 2005. Donc, on a été très prudents. La loi est passée en 2000. Et on a pris des hôtels rénovés ou construits après 2005, donc franchement, la loi était passée déjà depuis 5 ans, et aucun, mais de vraiment, là, ils sont très, très loin d'avoir le 10 %. On ne parle pas d'avoir un 9 %, on parle de 1 %, 0 %, 2 % de chambres accessibles. Donc, il y a une mauvaise volonté patente de la part de ces hôteliers-là, et il y a aussi personne qui ne fait respecter la loi. Alors, ben, c'est un peu comme les ceintures de sécurité. Moi, quand j'étais petite, j'avoue mon âge, on ne mettait pas de ceinture de sécurité, et ça a pris une loi et des contraventions pour que les gens, finalement, s'habituent, et maintenant, c'est normal d'entrer dans une auto et de mettre sa ceinture de sécurité. Alors, il faut des gens pour faire respecter la loi, et à l'heure actuelle, ça ne semble pas être le cas. Donc, effectivement, vous avez été peut-être troublé comme téléspectateur, mais je vais vous dire que la journaliste et la réalisatrice France Larocque, avec qui j'ai fait le reportage, nous avons été aussi troublés que vous avant de le faire.
Une des réalités, et je vous entends très bien, vous dites que ça prend une loi, vous parliez des ceintures, il y avait des contraventions, c'est qu'on dirait que les lois qui régissent l'accessibilité n'ont pas de mordant, à savoir, bon, il y a une réglementation, que ce soit pour les plans d'action de municipalités plus de 15 000 habitants, il y a, mais c'est comme, OK, si jamais vous n'avez pas fait le plan, ce serait bien que vous le fassiez, disons, l'année prochaine, parce que vous êtes en retard, parce que la loi vous donne 5 ans. Les hôtels, bon, si jamais vous faites une plainte à la Régie du bâtiment du Québec, ce qui, et ça, vous l'avez très bien illustré, n'est vraiment pas la première intention d'un touriste qui part de Copenhague puis qui arrive ici, il ne va pas commencer à s'attarder une fois qu'il retourne à la maison pour refaire une plainte à la RBQ. Donc, c'est complètement ridicule. La loi offre des mécanismes dissuadants de l'appliquer, je trouve.
Ouais. Que vous voulez répondre, Sophie, ben, je vous voyais opiner du bonnet.
La loi, pour commencer, on peut avoir des pénalités, mais la première chose, c'est d'avoir une forme de policier qui la fait respecter, qui vérifie. Puis ça, c'est même pas là, c'est même pas fait. C'est même pas vérifié si le code de construction est appliqué. Puis là, on a un cas patent pour les hôtels, mais c'est partout comme ça pour toutes les exigences d'accessibilité du code de construction. Il n'y a personne qui vérifie si c'est bien fait. On se fie sur la bonne volonté, puis c'est aux citoyens de faire des plaintes. Le touriste ne la fera pas, la plainte. Mais nous autres, on peut la faire,
c'est
par
ça,
exemple,
c'est ce
comme
que Pierre
citoyen.
Craig disait. Oui, oui. Et même Pierre Craig lançait l'appel à tous. En disant, même si vous n'êtes pas handicapé, si vous remarquez quelque chose, vous pouvez faire la plainte. Sophie, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que maintenant que la RBQ a vu ce reportage-là, est au courant de la situation, est-ce que vous pensez qu'on doit encore faire des plaintes ou normalement, ça devrait être suffisant pour qu'eux disent, OK, on le sait maintenant, on enquête.
l'actualité va tellement vite que demain, ce n'est pas un sujet qui va être leur priorité. Il faut en faire des plaintes, parce que s'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'enquête. Ils ont un nombre limité d'inspecteurs qui vont voir les endroits où il y a des plaintes, puis ils vont là où ça fait mal. Ils sont allés voir les garages là, de stationnement qui s'effondraient. Ils sont allés voir les tours de refroidissement d'eau parce qu'il y avait de la contamination, il y avait des maladies.
Ouais.
Ils n'iront pas voir les hôtels parce qu'il y a eu une émission à la facture. C'est dommage, mais ce n'est pas ça qui va les faire bouger. Ça prend des plaintes. Il faut que les citoyens fassent des plaintes, puis pas juste pour les hôtels, pour tout ce qu'ils voient qui n'est pas accessible.
Donc, un état de fait connu et su n'est pas suffisant pour faire en sorte que le regroupement qui est dûment constitué pour assurer la sécurité et le droit de chacun passe à l'action. C'est quand même ahurissant.
Oui, mais c'est la loi à l'heure actuelle. C'est-à-dire que l'RBQ n'agit qu'à partir des plaintes.
Okay.
Alors, nous, on l'a illustré par rapport aux hôtels. Sophie le dit très bien, c'est dans tous les domaines de la régie du bâtiment. Ça prend une plainte. C'est comme si pour eux, l'industrie s'autorégule. Alors, okay. On ne vérifie pas, ouais. On compte sur la bonne volonté okay. des propriétaires et des constructeurs. À partir de là, effectivement, c'est aux citoyens et effectivement handicapés ou pas, parce que je ne vois pas pourquoi ce serait que les personnes handicapées qui feraient des plaintes. Donc, ça prend un citoyen qui remarque une anomalie, qui remarque quelque chose qui ne fonctionne pas et qui systématiquement va faire une plainte à la régie du bâtiment ou même peut faire une plainte aussi, on en parlait dans le reportage, à la Commission des droits de la personne. Mmh. Et il ne faut pas hésiter non plus, parce que quand il y a des bâtiments qui sont mal adaptés, quand il n'y a pas de toilettes dans un restaurant qui sont adaptées pour les personnes handicapées, tous ces problèmes-là, ça relève aussi des droits de la personne. Alors, il ne faut pas hésiter à faire des plaintes à la fois à la RBQ et à la Commission des droits de la personne.
Comment se fait-il, Sophie, que, je ne sais plus c'est lequel, le nouvel hôtel en 2012, mais... Bon, à la base, il n'a pas répondu au pourcentage requis. La régie du bâtiment est allée voir, et là, ce que l'on entend dans le reportage de Claire, c'est oui, ils sont conformes parce qu'il y a 8 chambres d'accessibles et il y en a 13 en voie d'être accessibles. Mais comme la loi était là, est-ce qu'ils ont eu au moins une bonne amende salée parce qu'ils n'étaient pas dans les normes lorsque la RBQ est allée vérifier?
Il n'y a pas eu d'amende. Excusez-moi, je vais me permettre de répondre à la place de Sophie, parce que là, c'est le dossier sur lequel j'ai travaillé, plus que Sophie là-dessus, sur le Marriott Courtyard. Ils n'ont eu absolument aucune amende. Il y a eu une plainte qui a été faite en décembre 2013 par l'organisme Kéroul. En février, il y a eu un rapport... En mars 2014, il y a eu un rapport d'inspection qui a été fait, qui a été donné à l'hôtel. Il n'y a rien eu ensuite... sauf une rencontre une semaine après que j'ai téléphoné et que j'ai demandé une entrevue avec la Régie du bâtiment du Québec. À ce moment-là, il y a eu rencontre entre l'hôtelier et la RBQ. Il n'y avait eu aucune rencontre avant et il n'y avait eu aucune prise de décision avant. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a à peu près rien qui s'est fait.
Donc, il n'y a pas de sanction selon la loi. C'est ce qu'on disait
tantôt. Il pourrait y en avoir, mais il n'y en a pas eu. Dans ce cas-là, je peux vous dire qu'il n'y en a pas eu, là, jusqu'à maintenant.
Ce qui est prévu, c'est des correctifs pour que le lieu devienne conforme à la réglementation. Ça fait que les correctifs dans un bâtiment existant, il faut voir que ça coûte cher, beaucoup plus cher que quand on les fait sur plan. Donc, c'est une forme de sanction d'obliger le propriétaire à faire ses correctifs, puis le concepteur, l'architecte est responsable aussi si ses plans ne respectaient pas la réglementation. Il y a une responsabilité professionnelle de ce côté-là. Dans ce cas-là, ce que je comprends, c'est qu'ils ont trouvé 13 chambres qui ne respectaient pas les exigences, puis la régie du bâtiment leur a demandé de corriger ces 13 chambres-là. Donc, c'est un peu ça, la sanction. Mais plus il y a des gens qui vont devoir faire des correctifs avec les coûts puis les problèmes que ça implique de faire des correctifs, et plus il y en a qui vont le faire puis qui ne trouveront pas ça drôle, bien, plus ils vont faire attention, puis la fois d'après, bien, ils vont respecter un peu mieux la réglementation.
Parce qu'on aime toujours en avoir plus, mais j'ai envie de la poser, la question. Claire a demandé au gérant du Marriott, s'il trouvait que c'était, disons, exigeant comme pourcentage, 10 % il a dit que oui. Et il dit, je suis pas le seul à penser ça. Est-ce qu'effectivement, 10 % donc 21 chambres sur 210, ce n'est pas un peu beaucoup?
21 chambres sur 210, là, c'est beaucoup si on garde ces chambres-là puis qu'on les loue juste à des personnes qui se déplacent en fauteuil roulant. Si ces chambres-là, on peut les louer à n'importe qui, mais qu'on les a si on a des gens qui en ont vraiment besoin. ça ne devient pas excessif. C'est juste des chambres où on a une salle de toilette un petit peu plus grande, puis même encore, on aime tous ça avoir une salle de toilette plus grande. On parle d'hôtel de luxe, là, hein? On parle pas de quelque chose là, qui est minimum, là, du Super 8 aux États-Unis qui est tout petit. Là. On parle d'hôtels de luxe où on a besoin, où on apprécie avoir des espaces un peu plus grands. Fait que pour moi, s'ils comprennent que leurs chambres, ils peuvent les louer à n'importe qui, mais que c'est un avantage, c'est pas excessif. Lui, il le trouve excessif parce que là, il y a des travaux à faire dans 13 chambres qu'il n'avait pas prévu faire. Mmh. Ça, il n'aime pas ça.
Mais Claire Frémont, on a parlé beaucoup des chambres, mais la première partie du topo, on parlait du général, de la réception, de l'endroit où était la porte. Bon, parce qu'il était loin de la caméra, l'endroit où on est obligé de monter par derrière en utilisant le monte-charge, il y avait un monsieur qui n'était pas trop de bonne humeur, là. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il vous a dit, mais... Sophie vient de parler d'hôtel de luxe.
Oui, c'était un hôtel de luxe dans le Vieux-Montréal. Et quand on est arrivé, on était en caméra cachée. Donc, effectivement, les réactions sont beaucoup plus franches que si on arrive avec une caméra marquée Radio-Canada. Et donc, on était avec Monique Trudel en fauteuil roulant. Puis, il y avait des marches. Moi, c'est un vieil immeuble, mais complètement rénové là, à l'intérieur. C'est vraiment un hôtel de super luxe. Et on a demandé s'il y avait une entrée où on pouvait passer avec le fauteuil roulant. On nous a dit, ben oui, par l'arrière. Donc, on est passé par l'arrière. Mais l'arrière, c'est un monte-charge. Et c'est un monte-charge vraiment au milieu des poubelles. Et quand on dit au milieu des poubelles, on n'exagère pas. On a vraiment eu l'impression qu'il y avait des rats qui auraient pu passer. Ça sentait très, très, très mauvais. C'était une journée très chaude d'été. Les poubelles sentaient, c'était une odeur nauséabonde lorsque vous n'avez pas senti, heureusement, en regardant le reportage. Et donc, on est passé à travers les poubelles. Et ensuite, bon, on n'a pas tout mis ce qu'on avait, mais on est passé à travers les cuisines. On est passé, à vraiment comme si on était la marchandise là, qui arrivait pour aller dans les frigidaires. Et quand on est arrivé dans ce hall luxueux, à la réception, on a dit, écoutez... on vient de passer par les poubelles et c'est là que ce préposé nous a répondu très gentiment qu'il n'y avait pas que les poubelles qui passaient par là, il y avait aussi la marchandise et que si on n'était pas prêt à passer par là, qu'il ne pouvait rien faire pour nous parce qu'il n'y avait pas d'autre entrée. Donc, c'est une réception qu'un hôtel qui, les chambres coûtent à peu près 500 $ par nuit.
On est obligé d'arrêter là. Je suis désolé. On revient avec Linda Rapic parlant de Commission des droits de la personne. Merci Claire Frémont, Sophie Langteau.
Merci.
Vous écoutez Accès libre.
Avec Karine Villeneuve, Kamal Salifou à la recherche, Lynn Gargano. Linda Gauthier est au téléphone, Madame la Présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Hortin.
Dans vos nombreuses plaintes à la Commission des droits de la personne, Linda, avez-vous eu l'occasion, vous, de vous plaindre de chambres d'hôtel ou d'endroits où vous auriez aimé que la Régie du bâtiment du Québec réagisse un peu plus?
Bien, c'est à venir, mais en ce qui concerne l'hôtel, ça s'est réglé finalement entre nous.
Ça veut dire quoi? Et avez-vous un truc? Est-ce que c'est un règlement qui vous a satisfait?
Oui, ça m'a satisfait parce que, disons que ça m'a permis de faire de plus d'actions militantes, effectivement. Puis, ils ont pris mes recommandations en
considération.
Puis, dans une première phase, ils ont fait pas mal ce que je voulais et ça sera peut-être un des premiers hôtels au Québec qui va avoir des chambres avec déjà des rails au plafond pour les personnes qui utilisent des lèvres-personnes. C'est assez rare.
C'est dans quelle municipalité?
Québec.
Et avez-vous une idée de l'échéancier pour qu'on puisse en parler lorsque tout sera dûment conçu?
Ben, disons qu'il y a déjà deux chambres qui n'ont pas les rails encore, mais ils ont acheté des lèvres-personnes portatifs. Et la prochaine phase, c'est au printemps.
OK. Ben là, il reste à dire c'est où, finalement?
Oui, c'est ça. Au Château Frontenac.
OK, OK. Donc, il faut avoir quand même quelques dollars.
Oui, mais je veux dire, c'est quand même meilleur que du bonbon.
Ben oui, non, tout à fait, tout à fait. Mm-hmm. Surtout que, lorsqu'on présume vouloir dépenser quelques dollars et on est obligé de passer par presque côtoyer les bennes à ordures pour rentrer, là, je veux dire, on a le droit de s'attendre à un service de première classe.
Absolument.
Linda, c'est rare que je prends le temps de vous appeler pour vous permettre de partager la bonne nouvelle. Je trouvais l'occasion vraiment intéressante parce que Il y a quoi, une dizaine de jours environ, vous avez rendu public, disons, vous avez voulu mentionner l'effort d'une boutique à Montréal qui pense à nous.
Absolument. Et c'est la boutique Nespresso au 2045 rue Crescent. Qui, en 2009, ont ouvert dans un immeuble de style victorien, donc évidemment patrimonial. Et ben, ils n'ont pas pensé à ça. Hein. C'est comme la majorité des commerçants ne pensent pas à ça. Et nous, on a un membre, à un moment donné, qui est membre aussi chez Nespresso, et étant certain que cette boutique-là était accessible, c'est une multinationale quand même, Nestlé Canada et tout ça. Il s'est rendu et bon, il a vu qu'il y avait des marches. Mm-hmm. Et c'était en janvier. Alors, il l'a pas trouvé drôle. T'sais. On a voulu l'aider, mais il y a un fauteuil motorisé. Bref, finalement, il a dit, mais ça a toujours bien pas de bon sens. Alors, nous, on a contacté Nespresso et puis ils ont été très, très réceptifs à cette idée-là. Très réceptifs. Ils ont dit « Oui, on va voir ce qu'il y en est par rapport à ça. » Et finalement, au bout de à peine 3 mois, je pense qu'ils nous ont contactés en nous disant que c'était les plans étaient faits et que c'était pour être chose faite. Ils nous ont même pas parlé des contraintes qu'il y avait auprès là, du Conseil du patrimoine ou d'Héritage Montréal et tout ça. Et paraîtrait-il que oui, il y en a eu certaines, mais je veux dire, ils ont... Non, ça les a pas intimidés, puis ont quand même procédé à la chose et de façon très esthétique.
Qu'est-ce qui est impliqué dans les changements à poser?
Il y avait à faire une rampe, bien évidemment.
Pour l'entrée dans la boutique.
Exactement. Okay. Nous, on avait demandé aussi s'il y avait s'il y a possibilité d'élargir peut-être un peu les portes. C'est des portes en verre, là. Et puis, on trouvait que c'était dangereux, qu'il était assez étroit. Puis, étant donné le grand gabarit des aides à la mobilité, là, plus ça va. Mais finalement, ça n'a pas été fait. Mm-hmm. Bref, ils ont fait ça. Un miroir dans l'ascenseur pour qu'on sache où on va quand on recule, si on est en fauteuil roulant.
Ah, c'est une bonne idée, ça. J'avais pas pensé que vous aviez besoin d'un miroir, vous autres.
Ben oui.
Ah oui, c'est bon.
Oui, nous autres, oui. Et, bon, c'est l'espace aussi, la configuration des tables. Vous comprendrez que c'est une boutique qui est quand même chic. Et ils ont des fauteuils et tout ça qui prennent assez de place, là, finalement. Ouais. Fait que là, on leur a dit un petit peu comment reconfigurer leur table. Et puis, ils ont accepté vraiment tous nos conseils avec une petite recommandation aussi à leur staff, là, en leur disant, ben, tu sais, c'est ça. Pas juste pour les personnes à mobilité qui ont des problèmes de moteur, en fait, mais les autres personnes. Et on, Luc, sont en train de penser à un menu en braille.
Ah, bon, mais c'est chouette, ça. Parlez-moi de la salle de bain et ensuite, c'est sûr, là, je peux pas m'empêcher de vous demander s'ils ont pensé à Karine.
Ben là,
Karine, elle va choquer.
Ben,
là.
Ça dépend. Est-ce que au niveau du... Je comprends bien, c'est un café aussi. Au niveau du comptoir...
Les comptoirs sont très hauts. Je dois avouer que les comptoirs sont très, très hauts. On avait demandé est-ce qu'il y ait une section abaissée. Ils nous ont dit, ben on va vous porter vos trucs au bout du comptoir et tout ça. N'en demeure pas moins que c'est haut. Et puis, le personnel, comment je dirais bien ça? Je les excuse pas.
Non.
Mais le personnel sont tellement courtois là, que c'est comme... vraiment, là, je leur donnerais une note de 11 sur 10. Là. C'est vraiment... Ils sont stylés. Et puis, même pour nous en fauteuil, Karine, on est pas mal de la même hauteur, mm-hmm. là, finalement. Et puis, c'est la même chose. Ils viennent toujours... Puis, on sent pas une... discrimination positive. On sent pas qu'ils en mettent trop. Là. C'est fait vraiment tout en douceur, tout en élégance et bon. Fait que je pense pas que les comptoirs soient abaissés demain matin, mais je dirais que ce qu'ils ont fait déjà, là, c'est quand même beaucoup plus que la majorité ont fait dans cette section.
Les champleurs dans les salles de bain sur le côté ou dans le fond pour que Karine puisse pas les ouvrir?
Dans le fond, pour que Karine ne puisse pas les ouvrir.
Ah, oh, désolé, Karine.
Ouais. Okay. Ben oui.
Mais c'est incroyable. C'est depuis que je côtoie Karine que je me rends compte qu'on oublie Karine.
Ben oui.
Même dans les salles de bain accessibles, je n'ai pas encore vu dévier avec l'équipement sur le côté.
C'est vrai.
C'est incroyable.
C'est vrai. Puis quand on fait des recommandations, nous, étant pas la société logique, bien sûr, on pense pas à ces affaires-là. Mais je te le jure, Karine, que je vais y penser.
Non, mais on comprend. Mais c'est de là l'importance d'être présent. Là,
oui, c'est pour ça que je voulais que vous veniez. Parce que là, vous m'avez sensibilisé. On en parle. Si on sensibilise la Gautier, vous imaginez au nombre de plaintes qu'elle fait?
Ben, je pense que Linda a été sensibilisée la semaine passée là, sur un autre dossier, là, sur nos recommandations.
Vraiment.
Là, on veut savoir.
Apprécié. Ben, vas-y, Karine, mets la table.
Ben, en fait, je pense que vous avez fait une... Linda, comme vous êtes... vous avez été élue, je crois, la personne représentant les personnes...
Oh, à la ville, là?
Avec le syndicat, pour les Postes Canada, pour le dossier...
Okay.
De la fin du service, là, du service de livraison à domicile. Mm-hmm. Et on a participé, nous, à la QPPT, au point de presse organisé par le Rappelé, justement pour faire valoir que si ce service-là cesse, ça peut nous affecter aussi.
Ah oui.
En tout cas, moi, les seules boîtes communautaires que j'ai eu l'occasion d'avoir à Sherbrooke étaient trop hautes pour vous.
Oui, mais des fois, c'est pas juste une question d'auteur. Nous, qu'est-ce qui est plus, qui serait plus problématique, c'est au niveau de la marche. C'est que nous, on se déplace pas en fauteuil roulant. Alors, si on doit aller au bout de la rue ou je ne sais pas où, aller chercher notre courrier, tout ça, c'est de se déplacer, ramener des colis. C'est encore plus problématique pour nous.
Ouais.
Mais vous avez quand même, vous êtes obligé déjà d'aller chercher votre lait chez le laitier, votre pain chez le boulanger, puis vos médicaments à la pharmacie?
Oui, c'est
ça. Des choses qu'on venait nous porter à nos portes quand moi, j'étais jeune?
Oui, mais quand même, c'est un service qu'on veut garder.
Ouais.
Parce que justement, tous ces déplacements-là, on veut aussi économiser nos énergies et tout.
Mm-hmm. Ben, sans compter qu'ils ont fait des profits extrêmes là, au deuxième trimestre. Là. 53 millions, c'est quand même mieux qu'une claque en pleine face, là. On s'entend-tu? Fait que je pense que c'est un service qu'on... En tout cas, c'est certain que nous, ils vont avoir bien de la misère au Québec, en tout cas à Montréal, à implanter leur fameuse boîte communautaire.
Sinon, est-ce qu'il y a d'autres bonnes nouvelles, Linda? Est-ce que leur applique fait ça occasionnellement? Est-ce qu'on veut en faire une mention annuelle? Est-ce que...
Je dirais que oui, c'est quelque chose qu'on va mettre... ça va être un nouvel outil, là, finalement. La minute positive.
Oui, oui, oui.
C'est quelque chose comme ça, oui. Effectivement, on va le faire, puis on ose espérer que, justement, les commerçants vont embarquer là-dedans. Comme Nespresso nous a permis de faire un communiqué de presse là, c'est malheureux qu'ils nous donnent pas la réplique aujourd'hui parce que ça relevait de M. Alexandre Raté qui est à l'extérieur du pays.
Mm-hmm.
Fait que, c'est ça. Puis finalement, nous, on va continuer aussi là avec Nespresso. On va aller voir les autres commerçants qui sont autour et qui auraient peut-être... leur montrer que c'est un avantage, tu sais, que c'est pas finalement, là, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Je pense qu'il y en a plusieurs, puis là, j'en ai un dans ma mire, là.
OK.
Chez Alexandre, sur la rue Pille, le restaurant de M. Croton.
Vous sortez dans des beaux endroits, vous.
N'est-ce pas?
Là, je me posais la question, parce que souvent, on entend l'argument... on se prive d'une clientèle. Puis avez-vous, par hasard, puis vous avez le droit de dire non, avez-vous entendu l'entretien que j'ai eu hier avec Linda Galland à l'émission Ça vaut le tour? Linda est propriétaire des auberges des Galands, de l'auberge des Galands.
Okay.
Avez-vous vu le reportage à la facture?
C'est la dame que toutes ses chambres sont accessibles.
Ben oui.
Oui.
Et Linda nous disait, et bon, c'est en rediffusion, sinon vous allez sur le canal m.org, nous disait à quel point... C'est vrai qu'il y a un gros bénéfice à ouvrir ses portes à une clientèle à mobilité réduite. Elle m'expliquait, et c'était encore plus candide lorsqu'on se parlait avant l'entrevue au téléphone, elle me disait, Luc, toutes les fins de semaine, j'ai plus de monde à cause de mon accessibilité.
Ben
et
oui.
Là, elle me disait, entre autres, qu'elle faisait son argent avec les mariages. Et elle me disait, je vais avoir 100 personnes, 110 personnes, parce qu'une ou deux personnes peuvent venir parce que c'est accessible et ne peuvent pas aller ailleurs.
Voilà.
Donc, à un moment donné, c'est vrai que quand tout le monde le sera, il n'y aura plus cet avantage-là. Mais pour le moment, il y a vraiment un manque à gagner. Et sans être 100 personnes à aller chez Alexandre en même temps que Linda, c'est sûr que si Linda aime se tenir là, puis qu'on est ensemble, puis qu'on est obligé d'aller chez Alexandre, mais non seulement ils vont faire de l'argent avec elle, mais avec moi aussi.
Oui, mais mais je suis tout à fait d'accord. Sauf que chez Alexandre, comprenez bien que je peux pas y aller l'hiver, hein? Parce que c'est pas accessible.
Oui, oui. C'est pour ça.
Mais pour faire le... Oui, effectivement, Mme Galland a tout à fait raison. Et puis, je pense qu'il y en a plusieurs qui devraient prendre exemple sur elle parce que c'est un fait.
C'est ça. C'est pas juste d'être fin. C'est pas juste d'être fin et d'offrir l'accès, ce qui devrait être un droit pour tous. Ouais. Mais en plus, c'est payant. Puis normalement, c'est ça que les gens veulent.
Oui, absolument.
Avez-vous déjà donné du sang, Linda Gauthier?
Oui.
Est-ce que c'était facile?
C'était facile avant que je sois que j'ai la sclérose en plaques, oui.
Est-ce que depuis que vous êtes en fauteuil, vous avez eu l'occasion, en fait, on a toujours l'occasion, mais vous avez dit oui à la demande de Emma Québec?
Bien, je ne peux pas en donner parce qu'on n'est pas sûr à 100% que c'est pas sanguin la sclérose en plaques.
Ah, OK. Donc, oui. Vous êtes... Karine, vous?
Je dois avouer, non. Okay. Ça ne m'est jamais arrivé.
Ils ont un plan d'action pour l'accessibilité des personnes handicapées 2014-2015 chez Emma Québec. Et on va en parler avec Laurent-Paul Ménard. Vous comprenez ce que ça veut dire, Linda Gauthier?
Oui.
Que je vous dis bonjour.
Bonne fin de journée à tous deux. À tous trois.
À bientôt.
Merci. Bye-bye. Au revoir.
Alors, on continue quelques mesures. Thank you. Bon, pas de chance. On n'arrive pas à joindre Laurent-Paul Ménard, porte-parole pour Emma Québec, alors on a dérangé Linda Gauthier. J'avais envie, tiens, puisque le temps nous le permet, je vous informe, mesdames, Karine Villeneuve et Linda Gauthier, Isabelle et moi, Madame Ducharme, ont été sollicités, et nous le sommes toute la semaine, par une équipe de tournage de Toronto qui parcourt Vancouver, Halifax, Toronto et Montréal pour comparer l'accessibilité.
Oh bon.
Et je ne sais pas quand ce sera diffusé, ce sera sur AMI et, sais-tu, l'automne 2015, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et on nous pose la question, on s'est promené un peu partout, on est allé au Musée des Beaux-Arts, on est allé hier au Balmoral, nous allons en métro aujourd'hui. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'Isabelle Ducharme n'a pas pris le métro avec son fauteuil électrique, mais... On nous demandait la question, qu'est-ce que vous pensez que ça prendrait pour que Montréal soit plus accessible? Quelle serait la stratégie à aborder pour que les choses bougent? Et ben, j'ai envie de que l'on se pose cette question-là.
Ben moi, je vous cacherai pas que j'ai que leur applique a un partenariat avec le service aux collectivités de l'UQAM et son service juridique qui est chapeauté par Lucie Lamarche, maître Lucie Lamarche. Bon. Et on en est venu à la conclusion que ça prend absolument une loi comme même si au niveau municipal, là, parce qu'il y a l'article 193 de la loi sur le bâtiment qui permet aux municipalités d'aller au-delà de ce que prescrit le code de construction. Okay? Mm-hmm. On n'est pas obligé d'attendre après l'Assemblée nationale, là. Et paraîtrait-il que la meilleure chose à faire, la meilleure stratégie serait de négocier avec la ville pour qu'il impose un règlement pour qu'on ait à tout le moins une accessibilité commerciale, au moins des endroits qui sont ouverts au public. Ouais. En leur donnant un horizon, OK, de 15 ans ou 20 ans, mais il faut toujours bien commencer en quelque part. Enfin, qu'ils ne pourront pas prétendre, les commerçants, en disant, ben, une contrainte excessive, ça coûte trop cher et tout ça. Non, parce qu'ils vont avoir tout ce temps-là pour amortir les frais de cet investissement-là. Alors, c'est ce qu'on a trouvé à date.
Et comment inciter les différentes municipalités à aller de l'avant avec une perspective comme celle-là?
Je pense que Victoriaville pourrait nous donner une leçon. Victoriaville, j'étais au congrès, justement, au sommet, là, organisé par Kéroul, mm-hmm. qui était superbe, soit dit en passant, grandiose. Et, justement, la ville de Victoriaville a fait une présentation et on leur a demandé à la fin, est-ce que Denis Coderre, ça vous dit quelque chose? Et on nous a répondu, ouais, le nom nous est pas inconnu. Mais, écoutez, eux autres, là, c'est si un commerçant se présente à la ville, va avoir un permis d'exploitation pour ouvrir son commerce sur la rue principale, puis qu'il y a un petit seuil, on va lui demander avant de faire la mise en accessibilité, avant de lui remettre son permis.
Mais est-ce qu'on comprend? Bon, c'est vrai que j'entends souvent que les municipalités entre 50 et 100 000, c'est peut-être un petit peu plus facile de rendre ça à l'échelle humaine, pas juste pour l'accessibilité, mais à bien des égards. Mm. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des conseillers qui vivaient avec des limitations fonctionnelles? Est-ce que l'on sait comment on a su convaincre cette approche-là?
Non, ils en ont pas parlé, puis on n'a pas eu le réflexe mm-hmm. de le demander. Sauf que je sais qu'à un moment donné, il y a eu je sais pas qui est-ce qui a lancé. Je pense que c'est l'OPHQ qui avait lancé un message, en tout cas pour les municipalités accessibles au Québec, là, tu sais, qui voulaient se joindre. Et Victoriaville a embarqué là-dedans. Je pense qu'ils sont rendus comme 39 au Québec, mais c'est sûr qu'ils ne sont pas tous aussi proactifs que Victoriaville et Drummondville, je dois dire mm-hmm. aussi. Ouais. Mais c'est gênant, là. Moi, je trouve que c'est bien, bien, bien gênant de dire que Victoriaville, tu sais, quand même emboîté le pas sur Montréal, tu sais, c'est parce que c'est la métropole.
Oui, je comprends. Mais en même temps, bon, tant mieux. Justement, cette semaine, on me posait la question, est-ce que vous êtes mal à l'aise parce que Vancouver est vraiment plus accessible que Montréal? Puis je disais, ben non, il faut que quelqu'un le soit, puis tant mieux pour eux. Puis ça donne un exemple, puis ça donne une motivation. un point à imiter. Maintenant, il ne faut pas oublier que Vancouver a eu l'exposition universelle en 86, a eu les Olympiques et les Paralympiques en 2010, et on sait très bien que le CIO oblige, lorsque tu veux recevoir les Olympiques, de rendre ta communauté accessible pour ensuite la tenue des Paralympiques. Alors, des fois, c'est parce que tu es gentil, d'autres fois, c'est parce que tu es obligé. Puis on n'a pas les moyens, nous, d'avoir les Olympiques. Disons que ça n'a pas été très, très, très rondement mené lorsqu'on les a eus la première fois. Puis les Paralympiques n'étaient pas dans la même municipalité. Non. À cette époque-là, ça a changé. Karine, vous disiez tantôt, ce serait peut-être important, en pensant à la QPPT ou aux personnes de petite taille en général, d'être plus présent. Comment, justement, parce que, bon, vous êtes peut-être un nombre limité, comment être plus présent pour s'assurer d'être entendu et d'être perçu comme des gens qui doivent être considérés?
Bien, c'est faire partie sur les tables de concertation, les comités d'accessibilité, faire
valoir nos
points.
Mais vous êtes combien? Je comprends
Non, mais je comprends. C'est sûr quand on parle d'accessibilité universelle, on comprend bien qu'on ne pourra pas tout répondre tout le temps à tous les besoins de tout le monde. On comprend très bien, mais quand même, plus qu'on en parle, plus qu'on en sensibilise, plus que ce concept-là va être expliqué, puis que, dans le fond, que monsieur, madame, tout le monde comprenne que c'est pas juste pour des personnes en fauteuil roulant. L'accessibilité universelle, c'est pour tout le monde, même pour eux-mêmes aussi. Mm-hmm. C'est se faire comprendre ça, que c'est un enjeu. Moi, même si je suis pas en fauteuil roulant, utiliser le métro, c'est difficile. Aujourd'hui, là, l'escalateur ne fonctionnait pas. Je dois descendre les marches. Moi, ça l'abîme mes genoux. Imaginez les personnes âgées. Quand je promenais ma fille à l'époque en poussette, imaginez, là, c'est difficile. Fait que les parents, tout ça, dans le fond, faut voir que faut faire à la population générale, faut montrer que ça concerne tout le monde, pas juste les personnes à mobilité réduite.
Ben c'est ça. Ben c'est de propager ce message-là. Puis c'est la société, OK, ceux qui n'ont pas de limitation aucune, c'est difficile pour eux à comprendre tant qu'ils sont pas devant le fait accompli.
Oui, oui.
OK? Fait que ça coûte cher. Nous autres, on est des chialeux. Et c'est tout ce qu'on voit. On lit ça là, sur les commentaires quand on sort des communiqués de presse.
C'est des privilèges.
Oui, c'est des privilèges. Tu sais, l'anonymat du web, là, c'est tellement confortable. Là. Puis tu peux dire n'importe quoi. Tu sais, ah, les maudits handicapés. Tu sais, c'est sûr que... Mais, ils pourront pas dire qu'ils seront pas avertis si un jour on leur souhaite pas. Mais ils deviennent à mobilité plus ou moins réduite.
Ouais. Est-ce qu'il y a trop de groupes? Il nous reste une minute. Est-ce qu'il y a trop de groupes et trop de façons d'approcher cet enjeu-là, ce qui fait que, bon, on se divise, on dilue un peu la sauce?
Il n'y en aura jamais assez.
OK. Karine, vous, votre position là-dessus?
Ben,
parce qu'on m'a posé la question cette semaine.
Même s'il y a plusieurs groupes, il faut quand même, sur certains points, s'allier. Ben, moi, je suis plus... moi, j'aime la collectivité.
Ouais.
C'est sûr qu'on peut pas tous s'entendre sur plein de petits points, mais dans les grandes questions, il faut s'unir le plus possible.
Ouais. Merci beaucoup, Linda. J'ai entendu que votre micro-ondes vous dit que votre dîner est prêt.
À moi, ça?
Oui, en tout cas, le micro-ondes a sonné chez vous à 50.
Non, j'avais mangé avant que vous m'appeliez, mon cher.
OK, bien, il y a eu un bip, 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 bip à 12h53.
C'est le bip de mon mari.
OK, c'est lui. Bon, ben vous lui souhaiterez bon appétit pour nous. Merci beaucoup d'avoir été là. Karine, c'est Nathalie qui vous...
Oui, ma collègue qui
vous substitue la semaine prochaine parce que vous serez dans un conseil d'administration de la COFAN. Alors, on ne veut pas vous empêcher de faire votre travail. Et ben merci à Kamal, à la mise en onde. Jean-Sébastien qui revient la semaine prochaine. Merci à Lynn Gargano. Bonne semaine, tout le monde!